Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes qualifiés quoi qu'il arrive, bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, il est à mes côtés dans ce studio avec toute la bienveillance qui le caractérise, même s'il est un peu taquin parfois, c'est bien sûr le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à la maladie chronique la plus répandue en France puisqu'elle touche plus de 15 millions de patients, l'hypertension. Et aujourd'hui, on va s'adresser à vous qui être touché par cette pathologie ou à vos proches. On va tenter de répondre aux questions pratiques qui sont le plus souvent posées en consultation. Et pour nous éclairer justement, notre invité, ce sera le professeur Philippe Gosse. Il est cardiologue au CHU de Bordeaux et l'auteur du livre « Je vis avec une hypertension artérielle » publié chez Marabout. Ensuite, dans notre chronique « Les mots du quotidien », focus sur le Téléthon. Nous sommes à la veille de l'événement annuel qui permet de récolter des dons en faveur des patients qui combattent sans relâche des maladies génétiques rares. Benjamin Lévesque viendra nous présenter quelques-unes des victoires obtenues ces derniers temps grâce à votre mobilisation. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle répondra à une maman qui se pose des questions sur l'orientation sexuelle de son ado.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est Le Vrai Faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et vous nous laissez également des questions via les réseaux sociaux. Et donc, on va écouter cette question de Jérôme qui fait suite à notre émission d'hier sur la dépression. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Voilà, j'ai une petite question. Ma fille de 16 ans, j'ai l'impression qu'elle est un peu déprimée en ce moment. Je trouve qu'elle mange moins en moins, elle n'a pas envie d'aller en cours, elle dort de plus en plus. Ça m'inquiète, sincèrement. Ça pourrait être une dépression. Comment ça se manifeste chez les ados au niveau de la dépression, quoi. Merci de me renseigner.
Alors pour vous répondre, Jérôme, on a interrogé justement notre invité d'hier, c'était le docteur Pierre-Alexis Geoffroy. Il est psychiatre à l'hôpital Bichat à Paris, on l'écoute.
Alors c'est tout à fait possible hein, d'avoir une dépression à l'âge de 16 ans. Les signes effectivement évoqués sont des signes d'alerte où il faut consulter son médecin généraliste, éventuellement un psychiatre. Le fait de plus dormir, d'être triste, d'avoir du mal à faire les cours, surtout si ces symptômes s'inscrivent dans le temps, donc plus de 15 jours, sont des signes qui doivent faire penser à la dépression et qui doivent donc conduire à un avis médical. Cet avis médical pourra donner lieu à des traitements de différents types, des psychothérapies ou des traitements antidépresseurs pour aider et accompagner cette personne. On emmène voir le médecin généraliste ou le psychiatre, c'est deux médecins de premier recours, et donc on prend un rendez-vous et c'est vraiment tout à fait facile et tout à fait simple.
Voilà, c'était le docteur Geoffroy au micro de Benjamin Lévesque. Passons tout de suite à la deuxième question d'auditeur du jour. Cette fois, elle est pour vous, Jimmy, écoutez bien, c'est Théo, 29 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. J'ai entendu parler des crêtes de coque qu'on peut attraper sur le pénis, une IST j'imagine. Mais c'est quoi et pourquoi on appelle ça comme ça?
Alors Jimmy, spécialiste des crêtes de coque, de quoi s'agit-il précisément et ça touche qui?
Alors les crêtes de coque, c'est vrai que c'est un nom un peu poétique, ça a l'air ouais, sympa.
Ça n'a rien à voir avec les animaux?
Non, pas vraiment. Alors c'est des condylomes, c'est les verrues génitales. Ah. On peut avoir, vous savez, vous pouvez avoir des verrues sur les doigts, sur les bras, parfois sur le visage. Eh bien, au niveau de la région génitale, vous pouvez avoir ces verrues. Donc c'est une infection sexuellement transmissible et c'est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente.
Ah oui.
Elle est 4 fois plus fréquente en ce moment que dans les années 70. C'est 1 à 2% des Français qui vont en avoir au cours de leur vie. Et donc, qui dit infection, dit virus. Et c'est le papillomavirus. Il en existe de nombreux
HPV
qui peut donner justement ces verrues génitales.
Et est-ce que ça fait mal quand on est victime de ces condylomes crêtes de coque ou pas? C'est quoi les symptômes concrètement? À part que, donc j'imagine, ça doit ressembler à des crêtes de coque.
Exactement, c'est ça. C'est des petits boutons. De toute façon, c'est au niveau génital. Donc évidemment, si vous commencez à avoir un bouton qui pousse à cet endroit-là, vous allez vous dire qu'il y a un problème parce que ce n'est pas douloureux. Et parfois, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. C'est peut-être votre partenaire qui s'en rend compte, notamment lorsqu'il y en a au niveau de la marge anale, parce que vous pouvez en avoir à ce niveau-là. Vous pouvez l'avoir au niveau de la verge, du gland, du prépuce, mais aussi au niveau de la vulve. Donc, il peut l'avoir sur toute la région génitale. C'est pas douloureux et parfois, et ils vont se reproduire. Ça va former des petites colonies.
Voilà,
donc,
vous allez
avoir
de plus en plus. Des bébés crêtes de coque oui, de partout.
Exactement. Et parfois, charmant. Il y a des petites odeurs qui sont un peu désagréables. Donc, c'est pas l'hygiène, c'est okay. Ces condylomes qu'il va falloir donc traiter.
Donc, ça fait pas mal, mais ça pue. Alors, comment on traite ça, Jimmy?
Alors, plusieurs possibilités. Déjà, ne le traitez pas par le mépris parce que ça va continuer et ça peut. Et donc, c'est contagieux. Hein.
Très au sérieux, la crête
donc,
de coque.
Il faut la prendre très au sérieux. Donc, il y a des traitements locaux. Donc, c'est le dermatologue qui vous fait ça, donc il peut vous faire de l'électrocoagulation,
il peut traiter ça au laser,
faire de la cryothérapie, vous savez, avec l'azote liquide, ou même faire une petite exérèse chirurgicale, et puis il y a aussi d'autres possibilités, des crèmes avec un traitement à prendre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et des crèmes très particulières que vous ne pourrez pas avoir sur ordonnance. Et donc, il va falloir montrer ça à votre médecin.
Qu'on peut avoir que sur ordonnance, c'est
que
ça.
Que sur ordonnance, exactement.
Dit, pas sur ordonnance, d'accord. Alors, comme bien souvent, mieux vaut prévenir que guérir, Jimmy. D'autant que dans le cadre de cette IST, comme beaucoup d'autres, c'est tout à fait possible. Comment on prévient ça?
Oui, alors, d'abord, il faut rappeler que le
tout
préservatif.
Tout ce que vous avez décrit, ça ne nous a pas donné envie.
Non,
donc allez-y.
C'est vrai que ça ne donne pas très envie. Mais tout d'abord, il faut rappeler que le préservatif ne suffit pas à vous protéger. Ça vous protégera des autres infections sexuellement transmissibles.
C'est très important quand même. Hein.
Très important parce que néanmoins, vous pouvez l'avoir simplement avec des rapports bucco-oral, bucogénital, pardon, avec des sextoys, juste par les doigts en fait. Donc
oui,
le préservatif ne
ça.
Suffit pas parce que c'est très contagieux. Mais mettez quand même un préservatif évidemment. Et puis il y a la vaccination contre le papillomavirus qui permet de protéger contre ces condylomes qu'on dit de bas grade, c'est-à-dire qui vont entraîner peu d'effets secondaires en dehors de ces petites éruptions-là. Et puis ça vous protège aussi contre le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers, donc il faudrait vous faire vacciner. Cette vaccination, on peut la faire à partir de 11 ans chez la petite fille, mais aussi désormais chez les garçons.
Très bien, merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils. Alors si vous aussi, comme Théo qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en ligne avec nous notre invité du jour. C'est vous, professeur Philippe Gosse. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes cardiologue au CHU de Bordeaux et l'auteur du livre « Je vis avec une hypertension artérielle sans réponse pour mieux vivre sa maladie et se soigner au quotidien » publié chez Marabout. Alors professeur, ce sera donc notre thème du jour. On va reprendre peut-être les bases avec vous d'abord. Rappelez-nous, c'est quoi une hypertension artérielle? Il se passe quoi finalement dans l'organisme quand cette maladie s'installe?
Eh bien, c'est trop de pression en moyenne dans nos artères. Alors, je dis bien en moyenne parce que la pression, ça varie beaucoup d'un moment à l'autre. Ça peut être par moment assez bas ou un moment plus haut. Mais c'est lorsqu'elle est en permanence trop élevée, en moyenne trop élevée, qu'elle finit par abîmer notre réseau artériel. Elle rend les artères plus rigides, plus épaisses. Et finalement, il y a plus de pression, mais les organes sont moins bien irrigués. Et cela a des conséquences importantes. C'est un des plus importants facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Donc c'est vraiment dangereux, effectivement.
Et justement, comment, professeur, on fait pour se rendre compte qu'on a de l'hypertension artérielle? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter les auditeurs qui nous écoutent, par exemple?
Eh bien non, il n'y a pratiquement aucun signe. On parle souvent de maux de tête, de mouches devant les yeux, etc. Mais en fait, ces signes sont en général très tardifs. Et la seule façon de savoir si vous avez de l'hypertension artérielle, eh bien, c'est de faire mesurer votre pression artérielle.
Donc il n'y a pas de symptômes particuliers. Du coup, j'imagine que pour le diagnostic, pour vous médecin, ce n'est pas évident. Comment vous faites pour mettre le doigt dessus alors?
Alors, ce n'est pas uniquement les médecins. Je pense que ça peut être tout le personnel soignant qui prend la pression artérielle. Vous savez que dans toute consultation, pratiquement, on prend la pression artérielle pour justement dépister ces hypertensions artérielles. Et une des choses qui me paraît importante pour améliorer le dépistage de l'hypertension artérielle, c'est de faire en sorte que tous les gens qui ont des appareils chez eux puissent éventuellement les faire tourner un peu et prendre la pression artérielle, y compris dans le domaine familial, car surtout s'il y a des antécédents d'hypertension dans la famille, la seule façon de savoir si on est hypertendu ou pas, c'est effectivement de mesurer sa pression.
Bon, imaginons justement, on a un appareil qui traîne à la maison, on va prendre sa tension. Quel est le chiffre normal pour savoir qu'on a une bonne tension?
Alors, actuellement, le chiffre qui est retenu, en tout cas pour les Européens, c'est 140-90 ou alors 14-9 si vous raisonnez en ce qu'on appelle un centimètre de mercure et en millimètre de mercure.
Oui, les gens connaissent
140-90.
Mieux ces deux chiffres-là, hein, 14-9, 12-7.
Les appareils maintenant affichent souvent en millimètres de mercure, c'est pour ça que je vous donne les deux.
D'accord. Et donc, si, une fois qu'on est atteint par cette maladie, qui c'est qu'il faut aller voir? Parce que vous disiez, donc la pression artérielle, on peut se la prendre à la maison. Si on a, une tante qui a un appareil ou son père qui a un appareil. Admettons, je vois effectivement quelque chose d'anormal, je vais voir qui? Mon généraliste, directement un cardiologue? C'est qui le médecin de référence, on va dire, sur l'hypertension?
Le médecin de référence, c'est le généraliste. C'est lui qui fera la première analyse, qui vérifiera s'il retrouve effectivement des chiffres comparables avec un appareil dont il est sûr, puisque les appareils d'automesure qu'on peut avoir à la maison ne sont pas forcément toujours très, très, très fiables, mais au moins ça permet de dépister. Et puis il va prévoir deux possibilités pour confirmer si l'hypertension est réelle ou pas, soit ce qu'on appelle l'automesure, c'est-à-dire des mesures qui sont faites par le patient lui-même chez lui avec un protocole bien précis, soit éventuellement un enregistrement de pression artérielle sur 24 heures avec un appareil automatique. Et c'est l'un de ces deux moyens qui permettra de savoir si l'hypertension est réelle et si elle mérite une prise en charge.
Professeur, à quel moment on prend sa tension ? Est-ce qu'il faudrait la prendre, je ne sais pas, en revenant du travail, après avoir monté 3 étages, ou après avoir regardé 3 séries Netflix bien allongées tranquillement ? Est-ce qu'il y a un moment où justement, on faudrait, parce que souvent on l'apprend, on dit être allongé, au repos, alors que ce n'est peut-être pas forcément la valeur qu'il faut retenir ?
Alors, si, quand même, il faut être au repos. Parce que le seul fait d'avoir faire un effort, le seul fait d'avoir une émotion, le seul fait d'avoir mal quelque part, fait monter votre pression artérielle. Donc, quand on conseille au patient de faire une automesure, d'abord, on vérifie qu'il a un appareil qui marche correctement, et puis, on lui conseille de le faire avec une règle standardisée. Alors, en général, on conseille de faire des mesures le matin, au moment du petit déjeuner, après 5 minutes de repos assis, 3 mesures d'affilée, et le soir même, dans les conditions identiques, 5 minutes de repos assis, 3 mesures d'affilée, et sur au moins 3 jours. Et ce qui compte, c'est la moyenne des 18 mesures que vous obtenez ainsi sur 3 jours, qui vous aide à savoir s'il y a réellement une hypertension, en sachant d'ailleurs que les seuils qu'on utilise dans ces cas-là, ce n'est pas le 14-9, c'est plutôt 13,5-8,5.
D'accord.
Oui, oui, parce qu'on utilise ce seuil parce que parfois, chez le médecin, il y a l'effet blouse blanche, et donc artificiellement, la tension peut être un peu plus élevée, donc on est un peu plus strict à la maison ?
Absolument. D'abord, à la maison, effectivement, en général, on n'a pas une blouse blanche devant soi, ça peut arriver. Mais
ça dépend, si. J'ai des Jimmy Mohamed, oui, mais.
Voilà. Mais en général, donc, et en plus, même si on est marié à un médecin, les relations sont quand même, heureusement, un peu différentes.
Moins tendues, quoique, ça dépend. Professeur Gosse, une dernière question pour cette partie-là, on va dire. Quelles sont les causes principales qui ont été identifiées pour l'hypertension ? Pourquoi on devient hypertendu en général ?
Alors, il y a 2 types de causes. Il y a des causes héréditaires, familiales, qui correspondent à peu près à 30% de l'élévation de la pression artérielle. Et puis, il y a surtout des causes liées à notre mode de vie. Donc, mode de vie, c'est trop de sel, pas assez d'activité physique, trop de sédentarité, la prise de poids.
L'âge aussi, non, peut-être ?
L'alcool, voilà. Et puis l'âge, effectivement, plus on vieillit, plus on a des risques de développer une hypertension artérielle.
Très bien, professeur Gosse, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité est en ligne avec nous, c'est le professeur Philippe Gosse. Vous êtes cardiologue au CHU de Bordeaux et l'auteur du livre « Je vis avec une hypertension artérielle » publié chez Marabout. Alors professeur Gosse, une fois que mon médecin m'a trouvé une pression artérielle élevée, est-ce qu'on a forcément des médicaments tout de suite ? Je suis classé hypertendu et mis sous traitement ou est-ce que ce n'est pas obligatoire ?
Alors, ça dépend du niveau de risque cardiovasculaire que l'on a. En fait, l'hypertension artérielle doit être jugée par rapport aux autres facteurs qui peuvent cohabiter. Alors, je pense par exemple au tabac, la surcharge pondérale, le cholestérol, le diabète. Plus vous avez de ces facteurs, plus vos risques sont importants et plus il faudra agir vite sur tous les facteurs, mais bien évidemment sur la pression artérielle. À l'inverse, si le niveau de risque est assez faible et si on a l'impression qu'il y a des facteurs sur lesquels on peut jouer, par exemple diminuer la consommation de sel, avoir une activité physique plus importante, perdre un peu de poids, boire un peu moins d'alcool, à ce moment-là, on peut avoir une période d'observation sans traitement. Mais en général, l'objectif, c'est qu'au bout de, disons, 3 mois, maximum 6 mois, on ait pu obtenir des chiffres tensionnels normalisés. Sinon, il faut absolument
d'accord.
Un traitement.
Justement, lorsqu'on va utiliser et donner un traitement, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes familles de traitements contre l'hypertension ? Parce que je crois qu'il y en a quand même pas mal. Et comment est-ce qu'on choisit ? Qui choisit ? Le médecin, il ne choisit pas au hasard. Il a des pistes pour savoir quel traitement marcherait mieux ?
Oui, bien sûr. Il y a un certain nombre d'éléments. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais disons qu'effectivement, les grandes familles aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs de résistance. Enfin, bref.
Bref, on va avoir tout ça si on est hypertendu. On va avoir un de chaque ou
non,
c'est pas obligé ?
Non,
combien de médicaments par patient à peu près en général ?
L'objectif, c'est d'avoir un seul cachet à prendre le plus longtemps possible.
D'accord.
En sachant qu'il y a des cachets dans lesquels peut y avoir 2 principes actifs.
Donc c'est contraignant parce que c'est tous les jours, évidemment. Parce que j'allais vous dire, une fois qu'on est sous traitement, c'est pour toute la vie ou est-ce qu'on peut imaginer qu'on les arrêtera un jour ?
Non, il ne faut pas trop imaginer qu'on les arrêtera un jour. Le plus souvent, c'est effectivement pour toujours, sauf dans les cas où on arrive à mettre en évidence une cause très précise d'hypertension, qu'on appelle les hypertensions secondaires. Alors, globalement, elle ne représente pas énormément, c'est à peu près 5% des hypertendus. Mais par exemple, si on s'adresse à des sujets jeunes qui ont moins de 40 ans, le pourcentage d'hypertension secondaire augmente. Et c'est pour cela que chez ces patients-là, il faut souvent faire des recherches de ces causes possibles d'hypertension.
Alors, tous les traitements ont forcément des effets secondaires. Quels sont ceux les plus fréquents dans le traitement contre l'hypertension ?
Alors, que les traitements de l'hypertension artérielle secondaire ont assez peu d'effets secondaires, parce que justement, on sait qu'on les donne à des patients asymptomatiques qui sont en pleine forme et qu'il ne faut surtout pas les gêner par les traitements. La plupart des médicaments qui sont aujourd'hui commercialisés dans l'hypertension n'ont pas plus d'effets secondaires qu'un placebo. Il y a effectivement, en fonction des classes, quelques effets secondaires qu'il faut connaître, mais ça dépend vraiment de la classe thérapeutique que l'on utilise. Ce qu'il faut simplement dire, c'est que si un patient se sent moins bien une fois qu'il a commencé un traitement, il faut tout de suite qu'il en parle à son médecin et qu'on trouve à ce moment-là un traitement qui lui conviendra mieux.
Oui, parce que par exemple, les bêta-bloquants peuvent donner des troubles de l'érection. Il y a certains inhibiteurs, vous avez parlé des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, parfois c'est responsable d'une toux chronique. Certains inhibiteurs calciques donnent des maux de tête ou de la tachycardie. Donc je pense que, alors vous l'avez dit, c'est vrai que c'est peu d'effets secondaires par rapport aux autres, mais il faut quand même voilà, que le médecin informe.
Et si on en a, on prévient le médecin surtout.
Parce qu'on peut changer de classe de traitement du coup. Parce que on n'arrête pas ces traitements, il
faut
pas
absolument
arrêter.
Parler tout de suite.
Parce qu'il y a heureusement dans votre spécialité, en tout cas dans l'hypertension, il y a du choix heureusement pour changer de molécule justement.
Tout à fait. On a plusieurs classes et dans chaque classe, on a souvent différentes molécules qui se caractérisent surtout par des durées d'action différentes, mais aussi quelquefois par des effets secondaires différents.
Professeur Gosse, quand on a de l'hypertension, il faut faire justement contrôler sa pression artérielle. Vous avez dit, bon, on a des appareils chez soi, ça on en a déjà parlé, mais en tout cas, voir le médecin tous les combien pour à la fois cette mesure et puis faire le point sur tout le reste.
Alors, quand on découvre l'hypertension artérielle et qu'on met en place un traitement, souvent, le médecin revoit le patient assez vite, au bout d'un mois par exemple. C'est à peu près le temps pour que s'habitue au traitement et que le traitement fasse baisser la pression artérielle de façon significative. Ensuite, ça dépend effectivement de la tolérance du traitement, de son efficacité, de la nécessité de le renforcer. Et en général, comme je vous le disais tout à l'heure, on se donne entre 3 au grand maximum 6 mois pour avoir des chiffres tensionnels absolument normalisés.
Alors professeur, une innovation qui pourrait régler peut-être un jour l'hypertension artérielle, c'est la dénervation rénale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Parce que je pense que ça parle à personne.
Oui, ça, je comprends que ça puisse pas encore parler à beaucoup de monde. Alors, c'est une technique qu'on utilise quand même depuis pas mal d'années maintenant, depuis à peu près une dizaine d'années. C'est une technique qui vise à ponctionner une artère, l'artère fémorale, au pli de l'aine, à faire passer une sonde qu'on introduit dans les artères qui irriguent les reins, les artères rénales, et on va, d'une certaine façon, brûler un petit faisceau nerveux qui chemine dans la paroi de l'artère et qui joue un rôle important dans le maintien de la pression artérielle. Alors c'est un geste qui est assez maintenant facile avec des sondes qui permettent finalement d'aboutir à cette dénervation avec une demi-heure à peu près. C'est des procédures qui durent au maximum une demi-heure. On le fait une fois et ça fait baisser la pression artérielle. Alors jusqu'à présent, on l'utilisait essentiellement dans les hypertensions très résistantes pour lesquelles on n'arrivait pas à avoir des chiffres corrects malgré 3, 4 médicaments. Et on a pu montrer ainsi que c'était une technique qui marchait, pas à tous les coups, mais qui marchait assez souvent et qui n'avait pratiquement pas d'effet secondaire. Et aujourd'hui, une des réflexions que l'on a, et il y a des études qui sont en cours, c'est de savoir si justement on ne pourrait pas utiliser cette méthode chez des sujets plus jeunes, ayant besoin de moins de traitements, pour leur éviter justement de prendre des médicaments toute leur vie.
C'est très clair. Professeur Gosse, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, il est en ligne avec nous, c'est le professeur Philippe Gosse. Vous êtes cardiologue au CHU de Bordeaux et l'auteur du livre « Je vis avec une hypertension artérielle » publié chez Marabout. Professeur, on va passer aux complications de l'hypertension. Si on ne fait rien contre cette maladie, si on n'est pas traité et qu'on reste, je ne sais pas, pendant des mois, des semaines, enfin des semaines, des mois ou des années, on va dire même, à 18 de tension sans rien faire, c'est risqué, ça peut provoquer quoi concrètement ?
Eh bien, beaucoup de choses. Ça attaque finalement 3 organes principaux. Le cerveau, c'est une des causes principales des accidents vasculaires cérébraux. C'est aussi une cause qui majore les risques d'avoir des troubles cognitifs, d'avoir une démence. Ça touche le cœur avec l'insuffisance cardiaque. Ça favorise les accidents coronaires type infarctus. Et ça, c'est aussi une des causes principales avec le diabète, d'insuffisance rénale et de mise en dialyse. Donc ça fait quand même beaucoup de choses.
On va détailler tout ça.
Justement, du coup, l'hypertension artérielle, c'est un tueur silencieux. Ça veut dire qu'on devrait la prendre en charge correctement. Est-ce que les Français hypertendus sont bien équilibrés ?
Eh bien non. Malheureusement, non. D'abord, il y a beaucoup d'hypertendus qui ne le savent pas. On considère qu'il y a à peu près la moitié des hypertendus qui ne savent pas qu'ils le sont. Donc, c'est déjà énorme. Et parmi les gens qui se savent hypertendus, eh bien, il y en a pratiquement que là aussi la moitié qui sont aux objectifs tensionnels, qui ont une pression artérielle qui est normalisée par la thérapeutique en cours.
Donc en fait, une hypertension qui serait non contrôlée, non traitée, ça va abîmer, si j'ai bien compris, nos artères. Vous disiez ça les rend plus rigides, par exemple. Oui. Est-ce que ça veut dire que nos artères de tout notre organisme, à l'intérieur de tout le corps, finalement, ça va faire des dégâts, c'est ça?
Ça fait des dégâts à peu près partout, mais c'est vrai que ça se manifeste plutôt sur les organes les plus importants, que sont le cerveau, le cœur et le rein.
Alors parfois, on va avoir, avec l'hypertension artérielle, du cholestérol ou du diabète. Est-ce que l'association du diabète et de l'hypertension est encore plus néfaste que l'hypertension seule?
Très clairement, oui. C'est vraiment une association de malfaiteurs. Et l'hypertension, finalement, contribue à aggraver de façon très importante tous ces autres facteurs. Tabac, cholestérol, diabète. L'existence d'une hypertension associée majore les complications et augmente la rapidité avec laquelle elles se développent.
Et vous voulez dire que le diabète découle de l'hypertension, en fait, parfois, c'est ça?
Non, je dis que... Alors, d'abord, vous savez qu'il y a deux types de diabète, mais le diabète de type 2, diabète gras, il y a très très souvent une hypertension artérielle associée. C'est pratiquement 70% des diabétiques ont aussi une hypertension. Et cette hypertension va accélérer les complications du diabète, sur les reins en particulier, sur le cœur, sur les yeux, un peu partout.
Alors c'est moins connu, mais un problème de thyroïde pourrait avoir un retentissement justement sur la tension artérielle?
Alors oui, quand la thyroïde ne marche pas suffisamment, ou à l'inverse, quand elle marche trop, ça peut s'accompagner d'une hypertension. Mais là, souvent, si on corrige le défaut de la thyroïde, on peut arriver à normaliser la pression artérielle.
L'apnée du sommeil également, il faut absolument la traiter vis-à-vis de ce risque d'hypertension?
Alors ça, c'est plus compliqué que ça, parce que traiter les apnées du sommeil ne règle pas forcément le problème de pression artérielle. C'est très fréquent d'avoir les deux, ça c'est sûr. Le traitement de l'apnée du sommeil, en plus, c'est pour le coup un traitement encore plus compliqué à suivre que le traitement de l'hypertension artérielle. Il est surtout indiqué lorsque le patient a des symptômes liés aux apnées du sommeil. Est-ce que ça fait vraiment baisser la pression? On n'a pas beaucoup d'éléments pour en être certain.
Alors, vous l'avez dit, l'hypertension artérielle va avoir un impact sur les vaisseaux sanguins, notamment celui du cœur, ceux du cœur. Quels sont les effets directs si on décide de ne pas traiter sa tension sur un cœur?
Eh bien, d'abord, le cœur va grossir, va s'épaissir, c'est ce qu'on appelle une hypertrophie, donc les parois sont plus épaisses. Mais ce n'est pas du bon muscle, c'est un muscle qui contient de la fibrose, qui est de moins bonne qualité, qui se contracte moins bien. Ensuite, le cœur est moins bien irrigué parce que justement, la circulation se fait moins bien. Les capillaires qui apportent le sang aux muscles cardiaques sont moins nombreux et donc le cœur est moins bien oxygéné quand on fait un effort. Et pour toutes ces raisons, eh bien, ça favorise l'insuffisance cardiaque, ça favorise les anomalies du rythme cardiaque comme la fibrillation auriculaire. Bref, c'est très très mauvais pour notre cœur.
Pour terminer, je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est quand même l'hypertension le principal facteur de risque d'AVC. Donc ça veut dire qu'il y a une action sur le cerveau qui est très néfaste. Mais vous disiez aussi tout à l'heure que ça pouvait quoi l'user, parce que vous parliez de troubles cognitifs. Est-ce que vous pouvez préciser un tout petit peu ça?
Eh bien, ça fait partie des facteurs qui favorisent effectivement l'apparition de démence du sujet âgé. Et les lésions qu'on a au niveau du cerveau ne sont pas uniquement, si vous voulez, des accidents vasculaires cérébraux. Ça peut être, là encore, des anomalies de la circulation profonde du cerveau et qui contribuent à dégrader finalement nos fonctions.
Merci beaucoup, professeur Goss, d'avoir été avec nous pour cet éclairage donc sur la maladie chronique, qui est quand même la plus répandue en France, et toutes les questions qui l'accompagnent, donc l'hypertension. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle votre livre « Je vis donc avec une hypertension artérielle » paru chez Marabout. Merci encore, professeur.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. Alors, il est temps maintenant de passer à notre séquence, les mots du quotidien. Demain s'ouvre la 34e édition du Téléthon. Pour l'occasion, nous avons décidé de parler dans cette chronique des avancées médicales obtenues grâce à vous qui faites des dons chaque année à l'AFM Téléthon. Des dons, Benjamin Lévesque, qui permettent des progrès très concrets.
Oui, par exemple pour l'amyotrophie spinale infantile. C'est une maladie rare et qui provoque une dégénérescence des neurones qui commandent les muscles. Ça touche une centaine d'enfants par an en France, des milliers en Europe. Et grâce au Téléthon, les chercheurs ont pu découvrir un remède, une thérapie génique, comme nous l'explique Frédéric Réva, le directeur général de Généthon.
Les premières étapes, ça a été d'identifier le gène responsable de la maladie. Et ça a été fait grâce au Téléthon. Très concrètement, c'est une injection intraveineuse de ce produit extrêmement complexe. Les produits de thérapie génique sont probablement les produits les plus complexes de l'ensemble des produits pharmaceutiques. Très complexes à concevoir, très complexes à produire. C'est un morceau d'ADN, c'est un gène thérapeutique qui va être transporté à l'aide d'un transporteur. Et c'est donc, de manière assez simple finalement, une injection intraveineuse qui va durer environ une heure à l'hôpital et qui va permettre d'apporter à l'enfant malade le gène thérapeutique.
L'an dernier, 30 enfants ont pu être traités alors que cette maladie était considérée comme incurable il y a quelque temps.
Et Benjamin, vous avez également recueilli le témoignage d'un papa.
Oui, il s'appelle Aurélien et sa fille Charlie est atteinte depuis sa naissance de la maladie de Fanconi. C'est une maladie du sang, très rare, 200 patients au total en France. Elle a reçu il y a un an un traitement en Espagne, une piqûre qui a changé le quotidien de toute la famille.
Alors aujourd'hui, elle est en pleine forme. Les évolutions de sa numération sanguine aujourd'hui sont quasiment stables. Avec une moelle osseuse qui fonctionne, ce sont des enfants qui peuvent vivre quasiment normalement. Donc on s'interdisait en tout cas de faire pas mal de choses, de sport un peu violent, de vie un peu en collectivité, d'aller à la piscine, ce genre de choses. On évite parce que les virus, les bactéries, ces enfants ne peuvent pas se défendre. Charlie, maintenant, on se balade quasiment normalement. Avec elle, on est peut-être un peu moins attentif, beaucoup plus simple en tout cas au quotidien et beaucoup moins de stress et de frustration pour les enfants parce qu'on leur permet de faire de plus en plus de choses.
Et le parrain de cette édition, c'est un autre papa, le chanteur M. Pokora, qu'on aime beaucoup dans cette émission, très ému après sa rencontre avec les chercheurs du Téléthon.
L'émotion, elle vient encore plus vite parce que je ramène tout à mon histoire, du coup, je ramène tout à mon enfant et du coup, on se met encore plus à la place des parents. Là, on a affaire à des héros du quotidien, comme l'a dit mon ami Soprano. Et voilà, ça donne encore plus d'envie de se battre pour eux, de se battre pour les familles, pour les enfants, pour cette superbe cause. On en fait toutes des caisses avec les Avengers et tous ces trucs au cinéma, mais en vrai, je pense qu'on devrait faire des films sur ces gens-là aussi.
Alors pour donner, c'est très simple. Vous prenez votre smartphone, votre combiné téléphone mural, enfin tout ce que vous avez, et vous appelez le 36-37, c'est le numéro de téléphone du week-end.
Jimmy, je vous vois déjà sur votre téléphone, il faut donner. Oui, vous allez regarder le Téléthon, j'en suis sûr.
Je vais regarder, c'est vrai que c'est un rendez-vous un peu régulier qu'on a, c'est un triste rendez-vous, mais d'un côté, on peut aussi changer le devenir d'enfant et de parent.
Donc c'est donc, des encourager maladies. Encourager la recherche,
exactement,
c'est très important.
La recherche, donc on donne chacun en fonction de ses moyens, donc tout petit don sera nécessaire pour la cause. Donc moi, je vous encourage à regarder et à donner si vous pouvez, évidemment.
Bien sûr, je rappelle donc les numéros pour ces dons. Donc c'est le 36-37, le numéro téléphone actif tout le week-end. Et même après, je pense, ou sur le site de l'AFM Téléthon. Merci encore, Benjamin, pour toutes ces précisions.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed qui se presse d'accueillir Catherine Blanc qui entre dans ce studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste.
Il fait la roue, il fait le pan.
À Paris. Jimmy, on a reçu une question que vous allez nous lire, s'il vous plaît, pour
avec
Catherine.
Avec plaisir. Ma fille de 16 ans m'a avoué l'autre jour qu'elle était amoureuse d'une fille de sa classe. Cela ne me pose évidemment aucun problème, mais par curiosité, est-ce qu'elle peut changer d'attirance à l'avenir ? Alors c'est vrai Catherine qu'à l'adolescence on teste plein de choses, mais est-ce que c'est pas maladroit de croire qu'à l'adolescence on pourrait tester une sexualité différente ?
Alors d'abord elle parle pas de sexualité, elle parle d'être amoureuse. Et ça ne veut pas toujours dire que c'est mêlé d'élan sexuel. Ça c'est souvent l'interprétation que certains parents peuvent avoir. Il y a des moments de l'adolescence où il y a des vrais sentiments amoureux pour ses copines ou pour ses copains. En tout cas les copines entre elles, les filles entre elles sont très amoureuses de leurs copines. Ça veut pas du tout dire toujours qu'il y a de la sexualité. Mais maintenant, puisque cette maman l'a axé sur ce sujet-là, c'est peut-être qu'elle en sait évidemment plus que sa question ne le pose. Donc déjà, c'est évidemment que les adolescents cherchent des choses, se cherchent, surtout dans notre époque où on leur a laissé entendre que c'était un choix à faire. Non seulement ils ont le choix de faire des études et d'avoir déjà une idée de qui ils seront professionnellement plus tard, qu'il faut aussi qu'ils prennent conscience du choix qu'ils auraient à faire quant à leur sexualité. Les choses ne sont pas aussi claires que ça. On ne choisit pas en se disant « je vais à droite ou je vais à gauche ». Il y a des choses plus intimes de soi-même qui s'expriment, des libertés qui s'expriment, des besoins, des impossibles. Et pour autant, c'est parfois simplement des tentatives, des curiosités, des genres parfois que l'on se donne. Et puis, il y a d'autres choses qui sont plus profondes et qui prennent leur place. Et c'est plutôt chouette qu'une jeune fille le dise à sa maman et que sa maman l'accueille. Maintenant, encore une fois, tout n'est jamais écrit complètement.
Alors là, c'est le cas d'une adolescente. Mais Catherine, est-ce qu'une orientation sexuelle, c'est pas non plus quelque chose qui est figé complètement dans le marbre ? Enfin, je veux dire, on sait que les choses peuvent changer, c'est possible. On peut un jour aimer les garçons, puis le lendemain, enfin pas le lendemain, mais quelques années plus tard, tout d'un coup découvrir qu'on est tombé amoureux d'une fille. Enfin, c'est possible tout ça.
Oui, il y a des couples d'ailleurs qui se font, qui font des enfants et qui tout d'un coup ont un élan qui part tout à fait ailleurs. Des couples qui se séparent et puis des hommes qui deviennent homosexuels, des femmes qui deviennent homosexuelles, tout ça existe aussi bien sûr, donc les choses sont mouvantes. Je pense qu'elles sont mouvantes tout simplement parce qu'elles étaient déjà là. En réalité, c'est pas qu'on change d'avis comme de chemise, mais elles sont là, elles sont refoulées et puis à un moment donné, elles se positionnent. Donc à ce titre, c'est vrai dans un sens d'hétérosexualité qui vire à l'homosexualité, comme c'est vrai d'une homosexualité peut-être protectrice qui après retrouve un cadre d'hétérosexualité le cas échéant.
Mais du coup, est-ce qu'il faut en parler avec sa fille ? Parce que c'est vrai qu'on, déjà, je pense qu'on a du mal à parler de sexualité. Alors, est-ce qu'on devrait s'intéresser en particulier ?
C'est sa fille qui lui avoue, elle dit l'autre jour, qu'elle était amoureuse d'une fille. Donc, ça veut dire que sa fille se sent suffisamment libre d'en parler. Mais vous avez raison, c'est une bonne question.
Faut la questionner, du coup
En tout cas, si elle en parle, dire comment tu le sens ? Est-ce que tu es tranquille avec ça ? Est-ce qu'à l'école, ça pose un problème ? Parce que si tu me le dis, est-ce que c'est juste pour voir que tu es accueillie par moi ? Ou est-ce que c'est pour trouver un soutien que tu n'as pas au sein de l'école ou de cette fille ? Est-ce que cette fille répond à ton amour parce que toi tu es peut-être amoureuse, mais peut-être ne l'est-elle pas en retour ? Parce que de toute façon, imaginons que ce soit hétérosexuel, c'est le même sujet.
Voilà, je dirais, elle lui aurait dit je suis amoureuse de ce garçon, c'est pareil, on peut se poser des questions. On ne voit pas que son enfant souffre.
Et alors l'amour n'est pas censé être source de souffrance. Pourtant, évidemment, il y a toutes les déconvenues qui sont au rendez-vous le cas échéant. Et donc tu es amoureuse, est-ce que c'est partagé ? Et est-ce que tu as des questions ? Est-ce que tu es tranquille ? Et puisque là,
c'est pas trop intrusif de poser toutes ces question, non, parce que l'enfant a fait déjà le premier pas au départ, donc pourquoi pas.
Oui, à partir de... je trouve que ce qui est plus intrusif, c'est de dire, alors, est-ce que... Alors, c'est quand tu as un petit copain,
quand
tu as
le vieil oncle de la famille dit, alors, t'as une petite copine, ça y est, mon petit copain.
Voilà, c'est ça qui est plutôt intrusif et où l'enfant est tout à sa pudeur et déjà, on le voit déjà, les jeunes filles cacher leurs hanches, cacher leurs seins avec leurs cheveux, leurs épaules, etc. Et on leur dit, alors, mais dis donc, t'as un joli brin de fille, est-ce que t'as un amoureux, t'as une amoureuse. Donc là, non, on n'est pas dans ce cas de figure, c'est elle qui vient en parler. Donc je pense qu'on peut très tranquillement, sans avoir des questions précises, mais au moins des questions qui ouvrent la possibilité d'un échange et laisser l'enfant aller là où il le souhaite et refermer les portes qui ne sont pas son rendez-vous du moment.
Et en plus, ce tonton un peu relou, il y a peut-être une chance de ne pas le voir à Noël parce que va avoir peut-être
cette année, c'est limité, oui.
Exactement, mais du coup, ça reste malgré tout légitime pour le parent de s'inquiéter puisque la société est plus tolérante, mais malgré tout, il peut y avoir quand même des rejets, des attitudes un peu... violente.
Oui. Bien sûr, maintenant, je pense que la peur n'annule pas le danger et avoir peur pour l'enfant, c'est plutôt cautionner aussi la possibilité d'une peur, donc se vérifier que tout va bien, le prendre avec de la légèreté et essayer d'entendre si justement ça représente une inquiétude d'une manière ou d'une autre pour l'enfant. Pour dire, tu sais, dans la vie, il faut aussi avoir la tranquillité de ses choix et du coup acquérir le pouvoir de ses choix. Et dès lors qu'on a le pouvoir, il y aura toujours des gens qui seront réfractaires à nos regards sur le monde et nos regards sur l'amour. Dans la mesure où on en a le pouvoir, on avance tranquillement sur son chemin.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et donc je vous dis à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie, bonjour.
De l'audace.
Alors aujourd'hui,
de l'audace,
mais oui, toujours de l'audace.
Toujours de l'audace.
La célèbre formule de Danton, évidemment. Puis on est triste, hein, Mathieu, parce qu'évidemment, un audacieux, c'était un président de la Ve République, Valéry Giscard d'Estaing, qui nous a quittés hier.
On reviendra sur lui, évidemment, durant cette émission, notamment avec Clémentine Portier-Kaltenbach. Et on aura d'autres audacieux au programme également aujourd'hui. Stéphane, le père de la phrase de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace.
Oui, c'est Danton. Georges Danton, bien sûr.
Qui d'autre ?
Mais la Goulue aussi, vous savez, qui a été peinte par Toulouse-Lautrec.
Tout à fait.
Ah bah oui, la goulue, elle levait bien la jambe. Et vous, vous avez trouvé un audacieux dans le paysage français aujourd'hui.
Dans le paysage et même sur les gratte-ciels français et internationaux. Est-ce que vous avez le vertige, vous, Stéphane?
Oui, absolument.
Oui, bah lui aussi. Sauf que lui, il escalade à main nue les gratte-ciels pour surmonter son vertige. Il s'appelle Alain Robert, on l'appelle le Spider-Man français.
Je vous souhaite une excellente émission, messieurs. Merci beaucoup. On sera à l'écoute, bien évidemment. Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1. Hein.